Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. Heureuse de vous retrouver. C'est Marianne Paquette derrière le micro pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé. On est sur Canal M. Vous parlez d'une campagne de financement majeure intitulée « Aider aujourd'hui pour demain ». C'est celle du Centre Filou lancée le 9 mars dernier. J'y étais d'ailleurs et bon... On en parle souvent ici du Centre Filou, mais personnellement, je n'avais jamais été en contact avec les enfants qui sont vus, qui sont accompagnés, accueillis au Centre Filou. Donc, ça m'a particulièrement interpellée. Une campagne qui porte très bien son nom parce qu'on veut, d'une part, continuer la mission qui est d'aider au développement des enfants lourdement handicapés qui se situe entre 0 et 15 ans. Mais ce que l'on souhaite également, c'est d'ouvrir le centre de répit à une tranche d'âge de 15 et 21 ans parce que les besoins se font sentir, sont de plus en plus, importants, de plus en plus lourds. Et tout ça pour permettre à ces enfants, adolescents, de participer au programme et au service du Centre Filou plus longtemps. En deuxième partie d'émission, Sarah Kimpton, elle est responsable des communications du côté du Centre Filou, sera là pour vous en parler davantage. Également, vous dire que selon des spécialistes en gériatrie, moins de 30% des personnes aînées font de l'exercice physique sur une base régulière. Et pourtant, selon ces mêmes experts, ils s'entendent là pour dire que le vieillissement physique et cognitif peut être retardé par un style de vie que l'on adopte. Et par style de vie, meilleur style de vie, on peut penser à des habitudes alimentaires plus saines, des interactions sociales de qualité continue, des activités cognitives aussi stimulantes, mais surtout l'activité physique. Denis Fortier, physiothérapeute, conférencier, chroniqueur, vient tout juste de sortir un livre « 99 façons », ça en fait beaucoup ça, de prévenir les effets du vieillissement. On lui parle à l'instant. Bonjour Denis.
Bonjour.
Merci d'être là. Tout bébé, tout neuf, tout chaud,
oui.
Ce nouveau bouquin sorti chez Trécaré. Et ça vient d'une interpellation assez concrète, Denis, parce que de par votre blog, Conseil d'un physio, par vos interventions dans différents médias, vous avez réussi à créer ce contact-là avec le grand public qui pose beaucoup de questions sur les effets du vieillissement. Les gens sont inquiet par le processus de vieillissement parce que faut dire qu'on peut pas vraiment passer à côté, là. Personne n'y échappe. Donc, ça a des impacts sur notre santé et ça crée des inquiétudes.
Ça crée des inquiétudes, ça crée des interrogations aussi parce qu'il faut dire les vraies choses. L'augmentation, l'espérance de vie a augmenté considérablement dans les deux, trois dernières décennies, ce qui change complètement la donne. Et parfois, on est un peu pris avec notre conception du vieillissement du siècle passé, alors que le vieillissement actuel, il est complètement différent de ce qu'il était. On vit plus vieux. Et maintenant, il faut s'intéresser à vivre mieux, vivre avec une meilleure qualité de vie. Et les gens s'intéressent à ça. Et par mes interventions dans les médias, les chroniques que je fais sur mon blog, et oui, il y a des questions et on attend aussi des réponses précises, des réponses concrètes. On sait tous qu'il faut bien manger, bien dormir, faire de l'activité physique. Mais comment? Pourquoi? Et autre chose aussi, les processus de vieillissement, on ne les connaissait pas tant que ça il y a 20-30 ans. Maintenant, on les connaît beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe sur nos os? Qu'est-ce qui se passe avec nos muscles, avec notre cerveau, avec ces années qui passent? Et c'est toujours difficile de mettre un chiffre. Dans notre société, on se dit, bon, à partir de 65 ans, on est un aîné. Moi, comme physiothérapeute, j'aime pas mettre un chiffre pour la simple et bonne raison que le vieillissement, c'est personnel à chacun, d'une part dans ses manifestations, et d'autre part, dans notre propre perception de ce qui est la vieillesse, de ce qui est, de ce que sera notre vie dans les dernières décennies de notre vie, où à partir de 30 ou 40 ans, on a notre propre façon de voir le vieillissement. Et la vieillesse, c'est pas un pays. Il n'y a pas une frontière où aujourd'hui on est rendu et hier on n'y était pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour avoir notre pension, nos chèques de pension, des choses comme ça, oui, il faut mettre un chiffre et c'est bien normal. Par contre, notre corps ne fonctionne pas comme ça. Nos muscles, par exemple, perdent de la force à partir de 30 ans, plus ou moins, de façon assez régulière. Et il y a des variables, des degrés, disons, des différents degrés d'une personne à l'autre, il faut en tenir compte. Donc, qu'est-ce qui se passe avec nos os, avec nos muscles? Sur notre cerveau, notre respiration et surtout, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour, un, freiner ça et pas juste freiner, parce que le vieillissement, c'est pas un synonyme de processus dégénératif immuable. Moi, je déteste cette vision-là du vieillissement où ça vient avec des petits bobos puis c'est comme ça. Je suis contre ça.
Cette fatalité.
Cette fatalité-là, et c'est pas de tomber dans l'angélisme, c'est pas ça l'idée du tout. Il y a des études, il y a plein d'études qui ont été faites très récemment dans mon livre. Je me suis basé sur ces études-là récentes. Là, Marianne, on parle de 2014, 2015, 2016. Il y a des études, par exemple, qui ont été faites sur des personnes âgées de 75, 80, 85 et 90. Par exemple, on leur a fait faire des exercices de renforcement et des vrais exercices de renforcement. Et on a pu constater une augmentation de masse musculaire. C'est quand même pas rien. Et cette masse musculaire-là, c'est pas banal. Durant le vieillissement, on va s'intéresser, bien sûr, à notre pression artérielle, à notre cœur, à notre cerveau. Mais nos muscles, c'est au moins 40 % de notre masse corporelle. Il y a du sang qui passe là-dedans. L'autonomie des gens, la qualité de vie, c'est directement relié à notre force musculaire dans un contexte de vieillissement. Et ça, bon, ça prend les bonnes clés, mais il y a vraiment moyen d'augmenter, pas juste la préserver, pas juste éviter la chute, c'est pas ça, de préserver et d'augmenter notre force musculaire et notre équilibre et la santé osseuse, etc. Par contre, peut-être que tout le monde n'a pas ces clés-là pour y arriver. Et moi, j'ai vraiment voulu le transposer ça dans un livre. Je pense que c'est l'outil parfait. Oui, c'est vrai, vous en avez parlé, j'ai un blog. Mais un livre, on a des pages, on a des centaines de pages pour en parler.
Très bien imagé, avec des photos où l'on peut vraiment concevoir, comprendre l'exercice qui est proposé.
Donc, on peut le faire dans un livre. On peut donner ces clés-là aux gens. Il y a des exercices, bien sûr, mais il y a des choses aussi du quotidien. Les exercices, il y a certaines personnes en clinique, Marianne, on me demande chaque semaine des exercices, par exemple, pour prévenir l'ostéoporose, pour augmenter l'équilibre, etc. Il y a des exercices, c'est vrai. Oui, c'est important d'en faire, de l'activité physique, vous en avez parlé en ouverture d'émission. Mais on peut aussi prévenir les effets du vieillissement par des petits gestes du quotidien qui contribuent à la qualité de vie. On pourrait parler, par exemple, du chant, les effets du chant sur les processus de vieillissement. Ça a des effets positifs sur la respiration. On chante pas avec nos cheveux, on chante avec notre cage thoracique, avec nos muscles, avec notre posture. Mais plus que ça encore, on peut parler aussi des fonctions cognitives, c'est-à-dire la concentration, la mémorisation, la mémoire. C'est la préoccupation principale des gens qui sont dans un contexte de vieillissement ou qui réfléchissent au vieillissement, c'est de perdre la mémoire, comme on dit, de perdre sa tête. On revient au chant. Quand vous chantez, vous avez besoin de vous concentrer sur au moins la mélodie, mais probablement sur une partition musicale. Si vous chantez dans une chorale, vous chantez avec d'autres qui, parfois, ne chantent pas la même note que vous. Donc, ça stimule votre attention sélective, auditive. Et on sait que, durant les processus de vieillissement, cette attention-là sélective peut diminuer. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau a une capacité telle d'adaptation, et ça, pour moi, c'est une révélation de mes recherches, une capacité d'adaptation phénoménale, et j'insiste, à tous âges. Et de chanter, et qu'on commence à chanter à 60 ans, à 30 ans ou à 80, bien, ça stimule cette attention-là sélective, et il y a une amélioration de nos performances, entre guillemets, là, au niveau de l'attention, au niveau de la mémoire. Et il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'ai insisté pour donner beaucoup, beaucoup de façons de prévenir le vieillissement. Il y en a 99. Et des petites choses comme ça, très simples, qui vont faire une différence ultimement sur la qualité de vie. Oui, c'est important de parler de l'espérance de vie. On veut vivre plus vieux, mais on veut surtout vivre...
En santé, c'est-à-dire en santé.
Tout à fait. Oui. Et oui, on peut dire aussi plus en santé, d'améliorer notre santé. Quand je vois quelqu'un dans mon bureau qui a, disons, 60, 65 ans ou 80, peu importe le chiffre, là, c'est pas important, et qui perd de l'équilibre et qui me demande de freiner cette perte d'équilibre-là, moi, ça me fend le cœur, juste la question. Je veux pas freiner votre perte d'équilibre. Mm-hmm. Je veux que vous récupériez votre équilibre. Et la majorité des gens qui sont en santé peuvent récupérer cet équilibre-là. C'est pas rien. L'équilibre, c'est vrai, on peut prévenir les chutes. C'est majeur de prévenir une chute. Hein? Tout le monde est d'accord avec ça. On ne veut pas tomber. Mais l'équilibre, c'est beau, c'est utile pour ne pas tomber, mais pour une multitude d'autres activités dans la vie de tous les jours, pour l'autonomie, mais aussi pour les performances sportives. On a le droit d'avoir 75 ans et de vouloir pratiquer une activité sportive, là, une vraie. Mais pour ça, on a besoin d'équilibre.
Sans crainte de tomber.
Sans crainte de tomber, mais non seulement sans crainte de tomber, mais en démontrant une belle qualité de performance. On a tous vu sur les médias sociaux ou à la télé des vidéos de personnes de 85 ans, de 90 qui font de la natation, de peu importe le sport, je pourrais tous les énumérer. Et c'est parfait comme ça. Quand je vous disais d'échanger... En tout cas, moi, j'ai écrit le livre aussi pour ça, pour contribuer à ma façon de changer cette perception-là de la vieillesse à laquelle on est assis, on devient sédentaire, on berce nos petits-enfants et tout ça, on peut le faire aussi quand on est plus vieux. Mais si on veut, par exemple, pratiquer une activité sportive, oui, on peut le faire et c'est fortement encouragé et il y a des effets positifs sur notre santé.
Prouver et
noter. Ah oui, tout à fait.
Denis, je veux revenir sur ces processus d'adaptation-là. Vous en parlez souvent dans le livre et, en effet, ça ouvre une porte sur cet espoir-là. Oui. Il y a quelque chose de très galvanisant de se dire « mon corps, mon cerveau peuvent s'adapter ». Parce qu'on entend souvent à 35 ans, votre corps change, le métabolisme change. Bien, il y a une façon de contourner ça.
Tout à fait. Parce que c'est sûr qu'une cellule, hein, si on y va au niveau microscopique, une cellule, ça ne vit pas éternellement et je ne voudrais pas laisser croire que c'est ce que je suis en train de défendre. Les cellules finissent par mourir, on n'est pas éternel. Cela dit, les processus d'adaptation, eux, sont extrêmement puissants et on peut les séparer en deux. Les processus d'adaptation du muscle et les processus d'adaptation du système nerveux. Mm-hmm. Il y a une expression, un terme qu'on entend parler de plus en plus de ce terme-là, c'est-à-dire la réserve cognitive. Si vous avez vu le fabuleux film, je crois que c'est Still Alice, avec Julianne Moore, qui est atteinte d'Alzheimer ou qui pourrait être atteinte d'une autre forme de démence. Et cette personne-là, qui est très instruite, qui est un prof à l'université, a une réserve cognitive très grande. C'est-à-dire que le cerveau a trouvé des façons de contourner certains problèmes et qui fait en sorte que dans la vie de tous les jours, on n'a presque pas ou pas de symptômes. Je vous l'image d'une autre façon. Vous prenez un chemin Marianne tous les matins et là, c'est bloqué. Vous allez prendre une voie de contournement. Et si vous faites ça souvent, prendre des voies de contournement, vous allez établir une connaissance du réseau routier fantastique. La réserve cognitive, c'est que votre cerveau se fait plein de chemins pour pouvoir s'adapter. Et on en revient à la capacité d'adaptation du cerveau pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir même augmenter ses performances dans certains contextes en termes de mémoire, d'attention, etc. Et ces changements-là dans le cerveau se font... Un cerveau, si on veut le résumer, c'est des nerfs, des vaisseaux sanguins. Je résume beaucoup, là. Mais cette capacité-là, donc, d'adaptation concerne les nerfs et l'organisation des nerfs comme un réseau routier et aussi les vaisseaux sanguins. Donc, le cerveau va développer cette capacité-là de s'adapter. Par exemple, si vous voulez apprendre un instrument de musique, à 50, 60, 80, 90 ans, vous allez pouvoir, à cause de ça, et non seulement il va y avoir une adaptation, mais vous allez avoir des bénéfices à plusieurs égards. Et ça aussi, il y a des études qui ont été faites sur ça. Je vous parlais d'exercice tout à l'heure, mais là, je vous énumère d'autres choses qui ne sont pas de l'ordre de l'exercice, mais de l'activité physique quand même. Le jouer du piano, c'est une activité physique. Oui. Si vous faites
prendre une marche et choisir de prendre un autre trajet, c'est aussi de l'activité physique.
C'est aussi de l'activité physique. L'autre capacité d'adaptation, c'est les muscles. Donc, les muscles, en les stimulant, ben, ils vont modifier leur structure. On a une patente dans le muscle qui s'appelle les mitochondries, qui sont en fait, de façon très simple, la réserve énergétique. C'est les petites usines à énergie dans nos muscles. Il y a une étude aussi intéressante qui a été faite auprès des gens qui étaient âgés de 75 ans et plus, des hommes. On leur a fait faire du vélo stationnaire et après quelques semaines de vélo stationnaire, leur mitochondrie, leur petite usine à énergie, avait un aspect de semblable semblables à des muscles beaucoup plus jeunes.
Une usine plus performante.
Une usine plus performante, c'est une capacité d'adaptation. C'est microscopique, Marianne. Ça fait qu'on ne se lève pas le matin en se disant « Ah ben coudonc, mes mitochondries vont bien aujourd'hui. » On ne le voit pas, c'est microscopique. Par contre, c'est ce qui se passe. Donc, cette capacité-là d'adaptation du muscle, c'est fondamental. Et moi, j'aimerais bien qu'on donne ces lettres de noblesse aux muscles. Mm-hmm. Dans tous les contextes, particulièrement dans un processus de vieillissement, ce sont les muscles qui vont vous rendre heureux. Les gens qui nous écoutent en ce moment, alors regardez vos cuisses, regardez vos biceps, même s'ils ne sont pas gros, ce n'est pas grave, c'est les vôtres, mais c'est ce qui va vous permettre de garder une qualité de vie, de pouvoir marcher, de pouvoir éviter une chute, mais aussi de pouvoir aller voir vos petits-enfants. Vraiment, les muscles, c'est important, c'est essentiel. Il y a du sang qui passe dans nos muscles, mm-hmm. c'est fondamental. Et d'ailleurs, je consacre un chapitre à mon livre à cet état de fragilité, qui est un concept relativement nouveau qui s'adresse aux gens qui sont soit plus âgés ou dans un contexte de fragilité, c'est-à-dire, Marianne, qu'ils ont perdu de la force musculaire, qu'ils ont perdu des fonctions cognitives, probablement des capacités cardiovasculaires. Donc, tous les systèmes de l'individu se trouvent fragilisés. On a tous quelqu'un dans notre famille, oui. un grand-père, un grand-mère, un voisin.
On a tous
une image. Et là, si je pouvais crier haut et fort pour dire qu'une grande proportion de ces gens-là pourraient changer ce stade-là, pourraient ne plus être dans un état de fragilité en ayant un peu plus de force musculaire, un peu plus d'équilibre, etc. On pourrait énumérer les systèmes du corps humain un par un. Ce n'est pas un état irréversible. Mm-hmm. Et il faut avoir la clé, il faut savoir un petit peu quoi faire. Et ça, cette tranche de la population-là qui sont dans un état de fragilité, pour moi, ça me tient tellement à cœur, ça me rend triste de voir qu'il y a des gens comme ça qui sont, par exemple, dans des établissements, dans des CHSLD, et je ne lance pas la pierre à personne, je ne parle pas des individus qui y travaillent, mais moi, ça me rend triste de voir qu'il y a tant de personnes relativement âgés, qui ne bougent plus et qui restent relativement alités parce qu'on n'a pas les ressources. Bon, c'est comme ça, on pourrait longtemps en débattre, mais moi, j'aime bien parler d'action, parler de propositions concrètes. Oui. Et il y a des choses qu'on peut leur faire faire. On parle de densité osseuse, on parle de santé musculaire. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'équilibre peut, par exemple, faire des jeux de ballon, et je donne des exemples très concrets. Oui. Par exemple, même couché sur le dos, le fait, on parle de personnes fragiles, Marianne, en ce moment, là, qui auraient des ressources physiques diminuées et même cognitives, bien, couché sur le dos, lancer un ballon vers le plafond, même si ce n'est pas très haut, et le rattraper, ça stimule. La force, ça stimule la rapidité de réaction. Ça stimule les fonctions cognitives. Regarder le ballon, ça demande de l'attention. Moi, quand j'étais petit, j'étais poche au hockey. J'étais poche au ballon parce que j'avais de la difficulté à suivre, par exemple, le ballon avec mes yeux parce que mes fonctions cognitives n'étaient pas assez habiles pour être capable de courir, suivre un ballon avec mes yeux, tourner la tête, être
faire tout ça en même temps.
C'est ouais. ça. Mais il y a certains processus de vieillissement pour certaines personnes qui altèrent ça. Et donc, pour les personnes fragiles ou pour les personnes qui veulent prévenir, parce que la prévention, c'est fondamental. On accorde peu d'importance à la prévention dans notre société. On a des vœux pieux par rapport à la prévention. Mais qu'est-ce qu'on propose?
Du moins, on en parle de plus en plus.
On en parle de plus en plus, mais qu'est-ce qu'on propose concrètement? Il y a peu de choses. Donc, dans un livre, c'est l'outil pour moi par excellence pour en parler. Donc, de faire des activités physiques avec des ballons, avec peu importe, on pourrait en énumérer plusieurs, faire un sport d'équipe, jouer au ping-pong, jouer au tennis, ça vous force à vous concentrer sur une balle, à tourner la tête en même temps, à avoir une stratégie pour vaincre l'autre. C'est des fonctions cognitives, ça, qui sont intimement liées au mouvement. C'est indissociable.
Et il n'est jamais trop tard pour commencer parce que je me mets dans la peau des gens qui nous écoutent, Denis, et qui se disent, OK, je commence par quoi? Parce que votre livre propose beaucoup de volets. Santé de l'ossature, santé articulaire, santé cardiovasculaire, l'équilibre, la santé cognitive. Moi, j'ai 65 ans, j'ai 70 ans, je n'ai jamais fait d'activité physique, je dois m'y mettre. Je commence par quoi?
Moi, je vous dirais, il y a deux volets. Si vous avez un problème de santé, si vous souhaitez corriger, pallier, prévenir un problème de santé bien précis, commencer évidemment. Bon, là, dans mon livre, c'est divisé par chapitre, donc c'est assez simple. Oui. Si vous avez un problème de santé osseuse, vous commencez par le chapitre de la santé osseuse, ça va de soi. Mais, et vous pouvez aussi, il y a des programmes là, d'exercices qui vont faire en sorte que ça va travailler plusieurs choses. Ça, c'est un aspect. Mais j'ai surtout le goût de vous dire, commencez parce que vous avez le goût.
Oui.
Il faut choisir ce qu'on veut. Dans mes 99 façons, il y en a une façon qui est importante, c'est comment garder la motivation.
Oui, et le plaisir.
Et le plaisir, quel mot important. Et un des premiers conseils, c'est choisissez quelque chose qui vous plaît.
Et le plaisir, Denis Fortier, on en a lorsqu'on vous écoute. Vous êtes passionné de votre sujet, 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. On peut également se retrouver sur denisfortier.ca.
Oui.
C'est complémentaire au livre et toujours d'une façon très conviviale, très simple. Et ce blog Conseil d'un physio, un plaisir de vous recevoir, Denis.
Ça m'a fait plaisir, moi aussi.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Sarah Kimtoun, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes responsable des communications au Centre Filou et là pour nous parler de cette campagne majeure lancée mercredi dernier, Aider aujourd'hui pour demain. Et cette campagne vient d'un constat, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'enfants qui vivent avec un polyhandicap et leurs familles qui viennent cogner aux portes du Centre Filou.
Exactement. Oui, alors c'est ça. Nous, au Centre Filou, l'approche unique qu'on a, c'est vraiment une approche personnalisé, centré sur l'enfant et sa famille.
Mm-hmm.
Alors, au Centre Filou, on est vraiment comme une extension de la maison, un prolongement de la famille, un milieu chaleureux pour vraiment ces enfants lourdement handicapés physiques. On leur offre tous les soins nécessaires à l'hygiène, la médication et tout ça. Et c'est ça, c'est venu d'un constat de, comme vous disiez, l'alourdissement, l'augmentation de la clientèle des enfants lourdement handicapés. Et du fait qu'il y a très peu d'endroits qui offrent du répit pour cette clientèle spécifique-là. Alors, on a aussi nous-mêmes une capacité d'accueil qui est de plus en plus limitée au Centre Filou. Et on a décidé donc de lancer cette campagne majeure.
Et là, en ce moment, votre clientèle, ce sont des enfants qui ont entre 0 et 15 ans, qui vivent avec un polyhandicap. On parle autant d'handicap physique ou handicap intellectuel, des handicaps qui sont lourds. Ce que vous souhaitez, c'est de pouvoir offrir également vos services à des jeunes un petit peu plus âgés.
Exactement, oui. Donc, il y a trois objectifs donc pour cette campagne majeure. Un des objectifs est d'étendre le service de répit jusqu'à 21 ans. Parce que c'est ça, pour le moment, on est jusqu'à 15 ans.
Mm-hmm.
On veut aller jusqu'à 21 ans. On veut aussi doubler le nombre de places dans nos programmes de développement.
Mm-hmm.
Alors, ça fait partie de nos objectifs. Et notre autre objectif, c'est aussi d'acquérir un nouvel édifice donc pour loger tous ces services-là parce que on veut donc agrandir notre clientèle, mais il faut aussi acquérir un nouvel édifice pour ce faire.
Oui, parce que plus de monde signifie avoir un besoin de plus d'espace.
Exactement, et pour le moment, au Centre Filou, on a atteint notre capacité maximale.
Mm-hmm. Sarah, j'aimerais également qu'on puisse dire un mot sur tous les services qui sont liés au développement cognitif, parce qu'il y a énormément d'activités en ce sens-là pour développer, pour stimuler les jeunes qui vont au Centre Filou.
Oui, ben en fait, au Centre Filou, on a en tout 4 services. On offre d'abord le répit. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a aussi un camp de jour estival qui a lieu durant l'été, donc pendant 9 semaines. Et pour ce qui est des programmes de stimulation et développement, vraiment ce que vous disiez, ce sont 2 programmes. Donc, il y en a un qui s'appelle Paprika, qui s'adresse aux enfants de 0 à 5 ans, qui est vraiment plus un programme de stimulation. Et on a le programme MUSCAD pour les 6-12 ans, qui, lui, est plus un programme de développement fonctionnel.
Et ce que vous souhaitez faire avec Aider aujourd'hui pour demain, c'est-à-dire d'aider des jeunes de 15-21 ans, est-ce que c'est que pour le répit ou également pour ces ateliers de stimulation-là? Est-ce qu'il pourrait y avoir dans le collimateur des activités de stimulation aussi pour ces jeunes-là?
Non, c'est aussi pour ces programmes de développement. En fait, ça fait partie de nos projets de croissance d'ajouter des places au programme Paprika et Muscade.
Mm-hmm.
Comme pour le moment, on a 17 places et on aimerait passer à 30 places grâce à la campagne majeure, entre autres.
Est-ce qu'il y a une liste d'attente au Centre Filou?
Pour le répit, oui, parce que dans le fond, pour le moment, on est capable seulement d'offrir un répit aux 6 ou 7 semaines.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on veut améliorer, être capable d'offrir plus de répit plus souvent aux familles.
Et pour cette campagne, si je ne me trompe pas, vous vous donnez 3 ans. Sarah, quelles seront les étapes de croissance?
Oui, on souhaite, dans le fond, amasser 5,5 millions de dollars d'ici 2018. Alors, les étapes de croissance, ça passe d'abord par l'acquisition d'une nouvelle bâtisse. Comme je disais tantôt, si on veut agrandir, étendre nos services, ça prend d'abord une nouvelle bâtisse.
Ouais.
Et ensuite, c'est certain qu'on va commencer à étendre le répit jusqu'à 21 ans, offrir plus de place aux camps d'été et aux programmes de développement.
Oui. Et puis, en chiffres, là, pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, en ce moment, du côté du répit sur une année, là, donc de répit annuel, c'est 2100 nuitées. Vous souhaiteriez, Sarah, pouvoir en offrir 4000.
Exactement. Donc, c'est si on augmente
notre cliente.
Oui, c'est ça. Si on passe aussi jusqu'à 21 ans, donc on va atteindre plus de familles, être capable de desservir plus de familles. Donc, on souhaite doubler le nombre de nuitées, oui.
Et lorsque j'ai pu assister à votre lancement mercredi dernier, en fait, le lancement de cette campagne-là, j'ai pu voir les effets sur les familles. Il y avait une maman qui était présente sur place et ce témoignage d'entendre tous les effets, les impacts positifs de la présence du Centre Philo au cœur de la famille et de tous les progrès qui ont pu être observés chez son enfant, on voit l'importance de ce centre-là pour les familles. Je pense que ça, c'est important de le rappeler.
Oui, oui, il y a différents impacts qui sont au niveau de la famille. Donc, pour les parents, c'est sûr que le service de répit, ça amène une réduction du stress familial. Ça permet aussi à certains parents de retourner au travail, donc un retour à la vie économique et sociale. Pour ce qui est des programmes de développement, ça apporte, dans le fond, ça amène une rapidité du développement chez les enfants.
Mm-hmm.
On remarque, donc pour le programme Paprika, je pense que c'est cette maman-là dont vous parlez, son enfant était au programme Paprika et elle a vu vraiment une évolution chez son enfant de son passage à Paprika.
Oui.
Et pour les enfants, il y a aussi un impact sur la fratrie, parce qu'on l'oublie souvent, mais ils font partie de la famille aussi.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, ça permet aux parents de passer aussi plus de temps avec leurs autres enfants.
On dirigera les gens au www.centrefilou.com. Sarah Kimpton, on vous souhaite beaucoup de succès pour cette campagne Aider aujourd'hui pour demain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien, la liberté derrière la console, c'est Marianne Paquette derrière le micro. On vous salue. Rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.